sommes en mesure de commencer cette présentation qui a, comme vous le savez peut-être, la forme d'une table ronde. Ce n'est pas un colloque scientifique que nous vous proposons, c'est un, je dirais presque la forme d'un débat. Nous espérons d'ailleurs à cette occasion avoir un échange avec vous. Donc pour ceux qui seraient en fond de classe, n'hésitez pas à vous rapprocher, que nous puissions avoir une conversation. Aujourd'hui, nous vous proposons une thématique qui s'inscrit dans le sujet assez vaste proposé cette année par le Festival de l'Histoire de l'Art, consacré à la question du matériau et la relation entre l'artiste et le matériau du point de vue des contraintes techniques, mais pas seulement. Et nous avons souhaité donner une orientation particulière à cette question très vaste du matériau à travers un sujet qui préoccupe particulièrement Drault Formation, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis maintenant quelques années, et qui préoccupe également l'école Boulle, dont nous avons ici un éminent représentant en la personne d'Alain Mingot, et qui est responsable de l'atelier de menuiserie en siège. Mais nous verrons l'aspect très technique un petit peu plus tard. La question que nous allons soulever aujourd'hui, une constatation, c'est le retour, le retour en grâce de l'artisanat d'art traditionnel dans le champ de la création contemporaine. Nous avons souhaité attacher à cette thématique et ce sujet général, utiliser un sous-titre que nous avons intitulé le retour de la belle matière. Il s'agit là donc, dans la mesure du possible, de proposer une défense et illustration des métiers d'art et, d'une certaine façon, de réintégrer le matériau, de réintégrer la beauté, d'une certaine façon, mais là, on pourrait discuter pendant des heures de cette notion. Et je partirai de deux postulats ou deux hypothèses. La première, pour reprendre le titre « Retour de la belle matière », premier terme, retour. Retour qui pourrait supposer qu'il y aurait eu, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelques années, une forme de rejet de la technique, une forme d'abandon de la technique, privilégiant par ailleurs l'idée, le concept, au détriment justement de la matière. Reprenant d'une certaine façon, de manière indirecte, cette idée assez puissante, il faut bien le reconnaître, née pendant la Renaissance, selon laquelle toute création artistique serait d'abord et avant tout « cosa mentale », comme disaient les Italiens, opérant par conséquent une scission entre d'une part la conception et d'autre part l'exécution. Donc ce rejet jusqu'à présent, en tout cas pendant quelques années, de l'aspect matériel, de l'aspect technique, connaît, semble-t-il, une fin, et c'est précisément ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui. Le deuxième terme que nous pouvons relever dans ce titre « Retour de la belle matière », c'est la notion de beauté, et nous pouvons également, d'une certaine façon, nous interroger sur la question de savoir si le retour de la matière, le retour de la technique n'induit pas, ou ne conduit pas à une réintroduction de la notion de beauté, à la fois dans les beaux-arts, mais peut-être plus précisément dans les arts décoratifs, dont il sera quand même grandement question aujourd'hui. On ne compte plus, depuis déjà un certain nombre d'années, le nombre de foires, le nombre de salons qui sont consacrés à la mise en évidence et à la valorisation des métiers d'art dans le cadre de la création contemporaine. Je rappelle à toutes fins utiles, je donne quelques chiffres, ça ne fait pas de mal de temps en temps, que l'artisanat d'art en France sont environ 277 métiers, 38 000 à peu près entreprises qui travaillent dans ce secteur, c'est quand même absolument considérable, et qui génèrent, d'après les chiffres du ministère, environ 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, incluant les métiers d'art relatifs au luxe. C'est dire à quel point, d'un point de vue strictement économique, les métiers d'art, dans le cadre de la création contemporaine, sont un secteur extrêmement important. S'agissant de cette mise en valeur à travers les foires, à travers les salons, je souhaiterais citer en référence par rapport à une conférence qui avait eu lieu à l'Institut suédois en février 2013, une phrase dans l'ouverture, si je puis dire, de cet institut, de cette exposition, exposition consacrée à la céramique. Je cite « Céramique, un médium de l'art contemporain. Quelle est la place de la céramique dans l'art contemporain ? De quelle façon les artistes céramiques, et nous reviendrons, je pense, avec Madame Rodriguez-Elli sur cette question, le statut d'artiste, d'artisan, de quelle façon les artistes céramiques s'approprient-ils cette céramique afin de se hisser au rang des arts plastiques ? Autre citation que je souhaiterais faire, c'est la définition que donne le ministère de l'Industrie dans le cadre du rapport Dumas, qui a été réalisé en 2009 et qui tente une définition des métiers d'art, qui se définissent ainsi, métier de la main associant savoir-faire et création artistique pour produire des objets utilitaires unique ou en petite série. La question de l'objet utilitaire, nous en parlions tout à l'heure avant cette intervention, je pense, reviendra certainement dans le débat. Dernier élément que je souhaiterais peut-être mettre en évidence avant que nous entamions notre discussion, cette question du rapport entre l'artisanat d'art et la création contemporaine peut s'évaluer à trois niveaux. En tout cas de manière un peu schématique. Premier niveau serait le niveau de l'artisan, l'artisan créateur, à la fois créateur, c'est-à-dire maîtrisant parfaitement la technique et les matériaux, qui soit en même temps artiste, qui aurait, je dirais, le double statut. C'est un premier niveau. Le deuxième niveau pourrait être, et nous aurons sans doute l'illustration tout à l'heure, le niveau de la collaboration entre un artiste, ou un designer si vous préférez, et un artisan, les deux acteurs n'étant pas identiques, n'étant pas semblables, ce qui n'est pas le cas dans le premier exemple. Enfin, troisième niveau de compréhension, si j'ose dire, l'artiste se faisant artisan. Et là, nous sommes également dans un troisième niveau, dont il sera peut-être question tout à l'heure avec nos intervenants. Je souhaiterais illustrer, pour terminer, avant de passer la parole à nos intervenants, la relation entre les beaux-arts et les arts décoratifs, de manière un peu historique, en montrant ici une tapisserie qui démontre, par l'exemple, la relation très étroite. Vous connaissez peut-être cette tenture, tout à fait célèbre, et qui voyait intervenir un grand artiste peintre, François Boucher, qui travaillait ici, pour le compte d'une manufacture, la manufacture royale de Beauvais. Et pour ceux qui connaissent bien l'œuvre de Boucher, vous voyez, je pense, le rapport qu'il y a entre peinture, beaux-arts et tapisserie, art décoratif. C'est un premier exemple. J'ai choisi de prendre le même artiste pour ma démonstration, dans le cadre, cette fois-ci, d'un autre matériau tout à fait employé aujourd'hui, dans le cadre de l'art contemporain, nous en reviendrons, qui est la céramique. Et là encore, belle collaboration entre les beaux-arts et les arts décoratifs, toujours par l'entremise de François Boucher. Plus proche de nous, et je préférais introduire les manufactures nationales, si je puis dire, là aussi, dans le domaine de la céramique, une belle collaboration entre des créateurs, artisans, artistes. La définition et le statut est un peu délicat, et là, qui propose une collaboration sur le plan esthétique. Les goûts sont tout à fait relatifs. Je propose ici simplement un aperçu de cette collaboration avec la manufacture de Sèvres. Et ces manufactures, peut-être avez-vous vu d'ailleurs l'exposition, ont, dans le domaine du mobilier également, évidemment tenté cette forme de réconciliation entre le passé et le présent, du point de vue de la réinterprétation. On le voit très bien sur l'affiche qui se trouve sur la droite, entre le mobilier ancien et le mobilier moderne. Enfin, dans un autre domaine, celui de la tapisserie, on voit ici une collaboration tout à fait étonnante entre le mobilier national, dans sa version textile, entre une manufacture tout à fait importante et un certain nombre de créateurs, dont François-Xavier Lalande, que je pense vous connaissez, et qui montre ici un caractère assez obsessionnel pour les moutons, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. J'en terminerai simplement, avant de passer la parole à nos intervenants, non pas que j'ai de relation particulière avec le Salon Révélation, mais je vous le signale néanmoins, aura lieu donc en septembre prochain, cette grande messe, si j'ose dire, du Salon Révélation, qui met en évidence précisément et qui met en discussion, si je puis dire, cette relation entre artisanat, art et création contemporaine. Et je vous conseille très fortement de vous y rendre, donc du 10 au 13 septembre 2015. Bien, je vais maintenant vous présenter, ou à la limite, nos intervenants vont se présenter, puisqu'il semblerait que j'ai commis une fausse part de là. Donc, nous allons commencer par Madame Nina Rodriguez-Elli, qui est fondatrice et qui s'occupe en particulier de l'Observatoire de l'art contemporain et qui vous expliquera d'ailleurs, je pense, précisément en quoi consiste son activité, une activité de veille, et qui va tenter de décrypter un petit peu les raisons pour lesquelles nous observons ce retour de l'artisanat des métiers d'art dans la création contemporaine. Suivra Alexandra Faux, qui est historienne de l'art, qui a un nombre incalculable de compétences, et en particulier qui est l'auteur d'un ouvrage fort remarquable sur l'histoire du textile, si ma mémoire est bonne, l'histoire du costume. Donc il faudra certainement quelques exemples tout à l'heure. Et donc Alexandra Faux illustrera notre propos à travers quelques exemples d'artistes qui travaillent précisément dans le contexte de cette relation métier d'art, création contemporaine. Enfin, M. Alain Mangot, que je citais tout à l'heure, qui est donc artisan d'art, mais plus que ça, puisque vous avez un titre tout à fait honorable, que vous avez eu meilleur ouvrier de France, et vous êtes en même temps professeur à l'école Boulle, chargé, donc, comme je le disais, du département menuiserie en siège. Voilà, et vous nous parlerez d'un sujet extrêmement important qui sont les perspectives d'avenir de l'artisanat face aux nouvelles technologies dont vous êtes un spécialiste. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Madame Rodriguez.
Oui, bonjour. Voilà, je suis donc Nina Rodriguez-Elli. Donc j'ai fondé l'Observatoire de l'art contemporain il y a quelques années. L'Observatoire donc de l'art contemporain est une plateforme de décryptage et d'analyse, c'est-à-dire nous abordons le monde de l'art, de la création, sous l'angle de l'analyse. Nous avons une activité de veille internationale. Nous arrivons à décrypter tous les mécanismes par une approche structurelle et une vision vol d'oiseau du monde. Donc on arrive à décrypter les mécanismes essentiels qui permettent de voir beaucoup plus clair. Donc nous observons trois domaines: l'art contemporain, étendue à la création, l'art et l'entreprise, car l'entreprise est devenue un prescripteur important dans le monde de l'art, nous allons le voir tout à l'heure, et également le marché de l'art. Nous avons une grille de lecture très claire, très simple, qui nous permet de cartographier toutes des données. Ces grilles de lecture s'organisent autour de signes que nous captons, nous décrivons des tendances, que nous analysons ensuite les phénomènes. Donc je suis chargée donc de cartographier toute cette large question des métiers d'art, de la création des métiers d'art, et d'essayer de donner une idée claire des raisons de cette réactivation des métiers d'art à l'heure actuelle. Donc on commence par un préambule terminologique d'abord, on aborde les choses d'une manière un peu simplifiée pour arriver de plus en plus au complexe. Donc la question actuelle, dont j'essaie de faire une petite cartographie terminologique en séparant la question, en distinguant la question des beaux-arts, la question de l'avant-garde, les arts décoratifs et l'art, avec toute une pléiade de mots-clés qui y sont associés. Les arts décoratifs sont issus évidemment de la question des beaux-arts au XVIIe, XVIIIe siècle, la rupture étant intervenant au cours du XIXe. Et les arts appliqués, les arts décoratifs génèrent un ensemble de mots-clés dont on a parlé tout à l'heure, que sont le savoir-faire, la question de la fonction, qui est très importante, donc de l'utilité, l'artisanat, la question du vernaculaire même, parce que c'est lié compte tenu de ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre, la question du multiple, la question de la tradition et de la transmission. De l'autre côté, l'avant-garde, avec la notion d'art, qu'est-ce que c'est l'art, hein ? Voilà, c'est quand on entend l'art, c'est la question, c'est on s'attache à la question du processus créatif, et c'est ça qui est mis en avant, la question de l'expérimentation, le nouveau, ce qui est lié à la rupture, c'est-à-dire à la rupture par rapport à la tradition. Donc, une œuvre d'art n'est pas spécialement une œuvre, n'est pas spécialement belle, ne s'attache pas spécialement au beau, ni à la tradition, puisqu'elle est plus ou moins en rupture avec cette tradition. Elle heurte la question du consensuel, souvent, la question de la tradition, la question de l'académie. Voilà. Et, étrangement, le terme décoratif dévalorise une œuvre d'art, souvent. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu... ambivalente, antagoniste, mais on va voir comment, à l'heure actuelle, on assiste à une sorte de décloisonnement. Donc, si on peut passer à la question suivante. Non, c'est... Voilà. Voilà. Le décloisonnement, ces questions où l'art est au centre, voilà. De toutes ces questions que sont l'unique, le multiple, le design, les arts décoratifs. Voilà. En ce qui concerne les arts décoratifs, on est vraiment en présence d'une recherche d'excellence, voilà, dans un protocole de fabrication où le matériau est mis en avant, le matériau est mis en œuvre. Donc c'est la question cruciale dans ce qui nous concerne. Elle est liée à la tradition. Voilà. Aujourd'hui, les arts décoratifs revêtent aussi une dimension prospective avec l'apparition de nouveaux matériaux. Et puis, là, on voit qu'il y a cette question du design. Alors, qu'est-ce qui différencie le design et les arts décoratifs ? C'est presque une évidence, puisque en matière de design, très simplement, on part d'un dessin. qui définit un concept, et ce concept est mis en production industrielle. Et évidemment, l'objet issu de cette production a une fonction à la fois décorative, esthétique, et a une fonction utilitaire. Ah, c'est par là. Ouais. Alors, les artistes, il se trouve qu'à l'heure actuelle, dans ce champ de décloisonnement, où l'art contemporain est moins entendu, est passé de la question de l'avant-garde, du sens de l'avant-garde, donc de l'expérimentation, de la recherche, cette idée d'inconnu, eh bien, cette notion d'art contemporain, à l'heure actuelle, revêt une autre notion, celle de culture du présent. Elle est beaucoup plus reliée à la société. Donc, beaucoup d'artistes utilisent des matériaux propres. C'est ça qu'on constate. Je vais définir un champ de constat. L'état des lieux à l'heure actuelle, c'est qu'on observe des artistes qui utilisent des matériaux propres à l'artisanat, donc, et en tant que médium propre. Des artisans d'art qui produisent des œuvres uniques, qui poussent l'excellence jusqu'à produire des œuvres qui ressemblent à une œuvre d'art, à une œuvre. Voilà. Et les métiers d'art, donc, peuvent être un champ, à l'heure actuelle, un champ de prospective. j'ai mis perspective, mais c'est vraiment un champ de prospective. L'apparition de nouveaux matériaux qui induisent de nouveaux savoir-faire. Voilà. Donc on quitte le champ de la tradition. Alors, dans cet état des lieux, on va de la revalorisation des métiers d'art, on va partir d'un constat évident, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une inflation d'expositions, de manifestations qui ont attrait à ces questions-là, aux métiers d'art, à l'art décoratif. Actuellement, vous avez une exposition au Musée des Arts Décoratifs qui s'appelle Mutation. Je ne sais pas si vous êtes allé, vous êtes au courant, mais c'est à partir d'un objet de la collection, des artisans d'art ont travaillé et ont produit des œuvres qui sont issues, qui ont inspiré, qui sont parties de ça. Donc c'est vraiment cette connexion entre la tradition et les arts décoratifs et l'art est de plus en plus en train de se renouer. Les révélations dont vous avez parlé au Grand Palais, il faut savoir que c'est la deuxième édition, le salon des artisans d'art, mais dans lequel il y a également des galeries qui couvrent un champ très très ouvert. Donc deuxième édition, pour nous c'est assez significatif. Avant ça n'existait pas, il y a à peine 4 ans, ça n'existait pas. Voilà, c'est un salon qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. Quand il y a salon, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc les choses sont en train de se développer. Encore une exposition à Paris importante qu'on a saisie, qui s'appelle Fiber Future, à la Maison du Japon, qui met en scène des créateurs japonais sur la question du textile, de la fibre, et comment, là encore, on est dans des champs de prospective. Et puis encore, bon, on va passer sur un autre, de l'autre côté de la Terre, il faut connaître la Biennale de Gwangju en Corée, qui alterne avec une biennale d'art et une biennale de design, très 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 prospective également. Encore une autre exposition essentielle qui n'est pas dans ma liste, mais qui a lieu au Palais de Tokyo, donc un lieu très très prospectif à Paris, et qui s'appelle, dont elle vient de se terminer, Le bord des mondes, et qui pose une question: est-ce qu'une œuvre peut être autre chose que d'art? Et donc qui traite toutes les périphéries de la question de l'art. Donc on est vraiment dans un monde de décloisonnement. Tout s'entrecroise. Voilà. Derrière, il y a en toile de fond, on a un mouvement très très important au 19e, à la fin du 19e. Étrangement, ce mouvement s'oppose à la modernité. C'est le mouvement Art and Craft, l'esprit de William Morris. Qui était assez proche des peintres pré-raphaélites et qui s'opposait à la modernité. À l'heure actuelle, ce mouvement est très très prégnant dans notre monde, dans le monde de l'art contemporain en tant que culture du présent. Il a été d'ailleurs un sujet, William Morris a été un sujet des arts décoratifs il y a à peine 2 ou 3 ans. Les étudiants sont assez formés à cet esprit-là. Voilà, alors les raisons du retour en force des métiers d'art. Alors, la première, la plus évidente, c'est la globalisation de l'information. À travers la globalisation de l'information, c'est la circulation des savoirs qui se fait quasiment automatiquement. Voilà, l'Internet est un monde d'images, c'est un immense bureau de tendance qui fait que les savoirs, l'image, les imaginaires se croisent. Voilà. Et se tissent d'un continent à l'autre. On est dans un système de multipolarisation du monde, c'est-à-dire que il y a une montée en puissance des identités. Tous ces pays à forte croissance que sont l'Amérique du Sud, l'Asie, revendiquent une histoire et à travers cette histoire, souvent, leur propre tradition, leur propre savoir-faire. Et puis, il faut focaliser sur l'influence du continent asiatique. Sur ce plan-là, il faut quand même considérer deux définitions inversées de ce qu'est une œuvre d'art en Occident et en Asie, en sachant qu'en Asie, vraiment, la question de l'œuvre d'art est pas liée à la rareté comme en Occident, mais beaucoup plus à la maîtrise, à la qualité de la maîtrise, à la question de l'initiation, élevée sur un plan spirituel. Et enfin, l'influence de l'industrie du luxe, qui est assez essentielle dans la revalorisation des métiers d'art. Car le marché, les grands groupes de luxe sont devenus au fil des années des influenceurs du monde de l'art, jusqu'au marché de l'art, évidemment ont ouvert à ces questions de métiers d'art, de savoir-faire. Donc l'industrie du luxe s'est redéfinie ces dernières années autour de la question d'art, d'unique, pour se valoriser soi-même, lui-même, pardon. Voilà. Alors, on va faire un petit voyage on va prendre un cas, le cas de la maison Hermès, c'est une collaboration avec la maison Hermès qui a besoin de faire valoir justement ses valeurs et qui sont liées au savoir-faire évidemment. Et donc ils ont travaillé, il y a une collaboration avec Sugimoto, un artiste japonais, qui a retravaillé la question des carrés. Carré Hermès. Donc, ils ont fait une édition limitée d'œuvres de Sugimoto sur des carrés Hermès. Alors, c'est allé très loin parce que la grande présentation de cette série limitée de Sugimoto, donc ça veut dire que le carré Hermès devient une œuvre d'art. N'est plus qu'un carré, mais elle devient une œuvre d'art. Il se trouve que la première présentation a été faite à la foire de Bâle, dans le cadre de la foire de Bâle. La foire de Bâle étant le grand temple du marché de l'art contemporain. Voilà. Ça, c'est une présentation des foulards de Sugimoto, présentée comme une installation. Et ce sont les carrés Hermès, donc vendus comme des éditions limitées en tant qu'œuvre d'art. Voilà, Fondation Hermès également va aussi assez loin parce qu'elle est prescriptrice de contenu pour faire passer ses valeurs. Il se trouve qu'elle a organisé une exposition au Centre Pompidou-Metz qui s'appelait Forme simple, mais par ailleurs également, là c'est un cas au Musée du Cristal de Saint-Louis. Où elle a produit des œuvres. Donc là, on a cet exemple d'une œuvre cristal, Crystal House in the Mountains, de Benoît Bilotte. Voilà. On fait un petit peu un parallèle par rapport à l'État français, qui finalement, depuis Malraux, hein, tout simplement, à garder, préserver les savoir-faire français et à continuer à faire fonctionner les manufactures. On a vu Sèvres, votre exemple. Voilà, Sèvres continue et des commandes faites à des artistes sont effectuées très régulièrement depuis 40-50 ans. Là, on a une œuvre de Louise Bourgeois. Bon, il y en a tellement qu'on Sotsatz. Cécile Le Talec pour Aubusson, Là, elle a travaillé sur une question, sur quelque chose de très, très, très prospectif. Donc, elle a travaillé sur, dans son œuvre, sur une. Elle a créé une sorte de tipi, donc une sorte de lieu où on pouvait rentrer. Il se dégage quelque chose de sonore, donc il y a une son, il y a toute une recherche, une expérimentation sonore. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le champ de l'expérimentation. Donc tout se croise. C'est encore un exemple de croisement. Et enfin, je terminerai par une sorte de cartographie des matériaux qui font œuvre à l'heure actuelle. C'est les tendances à l'heure actuelle où les artistes et les créateurs se croisent. Donc la céramique, c'est peut-être le premier champ qui est utilisé par les artistes. Le verre, la fibre textile, le papier et également la technologie, mais il y a encore d'autres. Alors, la céramique comme médium, c'est-à-dire que la céramique n'est pas un élément de reproduction, mais elle devient le propre médium de l'œuvre, d'artiste. Donc là, on a une installation au musée de Serré de Miguel Barceló, voilà, avec des éléments qui sont assemblés, faits et complètement assemblés. Là, Clara Kristalova, qui est une artiste qui est liée à la galerie Perrotin, qui fait des pièces uniques en céramique, donc des éléments fictionnels qui sont constitués de céramique. Voilà. Également, c'est le médium d'un autre artiste belge qui s'appelle Johan Kreten, voilà, et qui développe une sorte de jouissance technique liée avec ce matériau qui est la céramique. Voilà. Lui, c'est un artiste anglais, Grayson Perry, issu de Young British Artist, et qui joue avec la question de la tradition, qui casse les traditions. En France, des très jeunes artistes qui n'ont pas du tout peur d'intégrer dans leurs installations, voilà, de faire appel à des savoir-faire, mais qui font partie intégrante de leur installation. Une autre jeune artiste s'appelle Maud Maffei, voilà, qui travaille la question du corps avec la céramique, le mou, l'intégration de la main. Donc ça va très très loin, le matériau est extrêmement malléable. En ce qui concerne le verre est également un médium phare à la fois pour les artistes et à la fois pour les créateurs. Voilà. Donc là, c'est un travail aussi très expérimental sur le verre, qui est traité comme du tissu, quasiment. On a une installation d'Anna Skipska. Et Olafur Eliasson, là sur des champs où vraiment qui croisent le scientifique et les savoir-faire.
Nina, juste une question. Là, nous sommes dans le cas de figure d'artistes, artisans qui maîtrisent l'ensemble du processus artistique.
Pas toujours.
Pas toujours, justement.
Pas toujours, non, parce que dans
la conception à l'exécution, mais pas nécessairement.
Certains artistes intègrent dans leur concept, c'est-à-dire que dans la question de l'art, il y a le concept. Le concept est toujours en Occident. Le concept est extrêmement important. En Asie, c'est différent. Mais en Occident, ces artistes-là intègrent tous les savoir-faire dans un concept général. Pour certains, pour d'autres, non, c'est Maud Maffei, travaille, voilà, la question du mou, son distorsement, l'intégration au corps, ça rentre dans un processus, dans une sorte de rituel, en fait. Voilà. Là, je pris cet exemple parce qu'il faut quand même parler de ce lieu à Marseille qui s'appelle le Sirva, qui est un lieu d'expérimentation autour du verre, et qui invite des artistes en résidence à faire évoluer les métiers, la question du verre, de l'utilisation du verre. Donc on est vraiment dans des cas d'expérimentation. Là, c'est un artiste qui s'appelle Mona Atum et qui a produit une œuvre et ce verre à l'intérieur de la cage, paraît-il, était très 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 difficile à fabriquer de la manière parce qu'il doit absolument s'intégrer dans la grille et je crois que ça a été très très dur à fabriquer.
J'aurais une question en voyant cette œuvre aussi, pour reprendre un peu l'idée que nous soulevions tout à l'heure, une des idées que nous soulevions. Nous sommes là dans le cas d'une œuvre qui n'est pas utile au sens
De
l'art,
oui,
la définition, voilà.
Oui. Non, c'est pas utile, c'est une œuvre.
Là, voilà. C'est donc une œuvre. On est détaché de cette notion d'utilité.
Oui.
Et on a affaire à une maîtrise technique qui fait de l'artiste ou du créateur un artisan, dans le sens qu'il y a une maîtrise technique et matériaux, mais néanmoins un artiste. Puisque l'œuvre a valeur en soi, je dirais presque.
L'œuvre n'a pas d'utilité, sauf que c'est une œuvre. Voilà. Comme on est dans ce que je vous expliquais au tout début, dans ma cartographie simplifiée, d'un côté l'art, et on n'est pas là dans le champ de l'art décoratif, même si ces champs-là sont décloisonnés et se croisent en permanence, même dans le concept. Voilà. Là, on est dans la... Je traite encore le verre pour la fabrique Venini, qui est une fabrique ancestrale très très ancienne à Murano, et qui lui aussi fait appel à des, pour régénérer la tradition, fait appel à des designers. Là, on est dans un cadre de design. Voilà. Et la question de la fibre est très importante. C'est aussi une grande, grande, grande tendance. Dans ce cas précis, ma première image, c'est une œuvre qui n'a pas de fonction, produite par une artiste italienne qui s'appelle Maria Lai, qui a toujours utilisé la fibre, le tissu, donc qui a fait des livres comme ça qui se sont développés en tissu, mais également des grandes installations avec des tissus, même qui traversent la nature, qui relient. Voilà, elle travaille vraiment sur cette question du lien. Mais également, là c'est une artiste japonaise, Shiota, qui est actuellement à la Biennale de Venise, qui représente le pavillon japonais de la Biennale de Venise, qui intègre les objets à l'intérieur d'un système, d'un maillage de fils extrêmement complexe. Mais également, là on est dans des recherches textiles, et qui sont liées à des... là, on est moins dans le champ de l'art, plus dans le champ des créateurs, qui travaillent sur la recherche de forme, voilà, beaucoup plus formelle, et qui traitent jusqu'au bout cette question de la fibre textile, qui vont assez loin. Ce sont des artistes japonais que vous pouvez voir à la maison du Japon en ce moment.
Une question par rapport au sens, si on parlait d'objets inutiles, entre guillemets, ce n'est pas pour autant que les objets n'ont été créés sans avoir de sens particulier. Y a-t-il un discours associé à ces œuvres ? Ont-elles été créées avec un objectif philosophique, avec un objectif ou pas ?
Là, on est dans un secteur en fait, qui a été très déconsidéré par l'histoire de l'art. Dans les années 60, il y a un mouvement qui s'appelle Fiber Art qui travaille cette question de fibres, de formes. Ils ne sont pas considérés comme des artistes, voilà. Mais comme des créateurs. Et à l'heure actuelle, ces mouvements reviennent en force. Donc on est dans des situations comme ça, voilà, de sculptural, très très formel, mais travailler dans ces questions avec ces recherches sur ces questions de fibres, hein, voilà, c'est du tissu, et qui, d'ailleurs, on peut faire une relation avec ce créateur japonais très très connu, comment il s'appelle, qui fait les robes. En sculpture, Miyake. Voilà, exactement. Il vient de là, Miyake. Il ne faut pas l'oublier. Là, je fais une vraiment une liaison. Voilà. Alors, là, on est dans un autre champ. Ça, c'est un artiste qui s'intéresse exactement à cette nature. S'il s'agit d'une matière, c'est du feutre, qui est bouilli d'une certaine manière, qui est fabriqué en Slovaquie dans une tradition ancestrale qu'il a trouvée et qu'il trouvait absolument incroyable. Et il a utilisé ce savoir-faire, cette tradition, pour produire des œuvres. Donc il les fait fabriquer là-bas, sachant que ça joue avec la lumière, avec des pigments particuliers qui jouent à chaque fois d'une manière différente, et il a produit deux œuvres avec ce type de savoir-faire. Donc c'est l'artiste qui intègre les savoir-faire des autres. Voilà, le papier, ça c'est encore une artiste qui s'appelle le papier, c'est de la fibre, hein, c'est vivant. Catherine Bock qui structure le papier, qui travaille à partir de cartes, donc elle déstructure, restructure, et donc ça va très très loin. Mais je veux faire tout de suite une liaison avec un centre d'art, de la même manière qu'on a vu le CIRVA, de l'autre côté de la planète, à Singapour. Il y a STPI, qui est un centre d'art qui vraiment s'intéresse à la prospective autour du papier. Donc au développement du papier dans toutes ses natures. Donc ils font venir des artistes pour travailler sur place, des artistes occidentaux aussi, très connus, comme des artistes asiatiques. C'est vraiment un croisement, et là se développe vraiment de l'expérimentation. Parce que le papier en Asie, c'est central. On est dans une nature avec des arbres ancestraux. Le papier, c'est presque une question de peau. Hein. Vraiment, c'est central. Pour nous, non. Mais en Asie, c'est central. Voilà. La technologie est aussi un médium. J'ai pris des quelques exemples de Jeff Koons. Voilà, qui est un artiste que vous connaissez tous, parce qu'il est très très médiatisé, mais juste voir l'œuvre de Jack sous un autre angle, l'angle de la question de la technologie. Des œuvres comme ça sont faites très très compliquées à faire. Là, on ne regarde pas le sens, on regarde comment c'est fait. Et donc, une pièce comme celle-ci est en plâtre, mais un plâtre très particulier, donc il y a une recherche particulière, et chez Jeff Koons, ce qui est central, c'est vraiment la question de... C'est un artiste qui est plus proche des arts décoratifs que de l'art, d'une certaine manière, dans la mesure où il pousse la technologie à son extrémité. Et c'est la technologie qui fait œuvre, d'une certaine manière. Voilà, le balloon bone, c'est très très complexe à fabriquer. Une pièce comme celle-ci, le Hulk, c'est du bronze. C'est un bronze et qui représente une forme de ballon, comme ça, quelque chose d'extrêmement léger, mais c'est du bronze. Voilà. Et je voudrais terminer par quelque chose qui est un petit peu particulier, l'expérience des matériaux en eux-mêmes, l'expérience, autre chose, quelque chose qui n'est pas palpable. On pourrait parler d'expérience, on pourrait parler de rituel, on pourrait parler de temps, et ça, c'est au centre c'est utilisé comme des médiums, et ça croise souvent les arts décoratifs et l'art. Notamment cet artiste qui s'appelle Alice Anderson, qui travaille à partir de fils de laiton, donc d'un matériau pauvre. Vous savez, ce sont des matériaux qu'on retrouve dans les vieux réveils. Maintenant, ça n'existe plus, mais dans les vieux réveils où il y avait un système électrique, il y a toujours des petites bobines de laiton. Voilà. Donc elle est partie de là, et elle utilise ce fil de laiton à une très très grande échelle, et produit avec d'autres, elle ne peut pas le faire toute seule parce que c'est très très complexe, des œuvres qu'avec du fil de laiton, mais des kilomètres et des kilomètres. Je crois que pour faire une sphère comme celle-ci, qui induit un rituel, de passe, là on la voit passer devant, c'est-à-dire qu'elle passe avec son fil, et puis ça dure très très, enfin elle met un temps innommable pour la faire, parce que le temps rentre en compte, le rituel rentre en compte, et aussi la manière de le faire, parce qu'elle travaille en compagnonnage, avec d'autres personnes qui l'aident, ce ne sont pas des assistants, ce sont des compagnons. Un exemple de voilà une pièce en vue détail, donc c'est une trame absolument voilà, on n'arrive pas à c'est très 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 complexe, et voilà des pièces d'installation avec ces fils de laiton, voilà, je donne un exemple. Donc là encore c'est on est dans des champs croisés, décloisonnés. C'est des jeunes artistes. Et là aussi, c'est une artiste qui s'appelle Evie Keller, qui, elle, là je l'ai choisie pour la question d'un matériau pauvre, elle utilise du cellophane avec des pigments. Là aussi, le temps et le rituel rentrent en ligne de compte, et elle construit voilà, des sortes de grandes peaux qui font expérience et qui, voilà, qui sont assez... Voilà, chose qu'il faut voir, une photographie n'est pas vraiment élaborée. Mais ce qui est important, c'est qu'on observe une jeune génération qui, dans leur processus de création, intègre la lenteur et le savoir-faire et les rituels, toutes ces données que l'on observe chez des créateurs ou alors des métiers d'art, où là le temps, la concentration, c'est les mêmes valeurs. Voilà. Donc, je vous remercie.
Merci. Auriez-vous,
Bonjour. Effectivement, moi je me suis intéressée à, plus particulièrement à trois artistes, enfin quatre, puisqu'il y a un duo de Waré Jikel. Pour parler, alors c'est un peu une sorte de contrepoint à cette approche de la belle matière, puisque vous allez voir que certains n'hésitent pas à utiliser des matériaux pauvres, voire déclassés, notamment avec l'artiste belge dont je parlerai enfin. Ce qui est assez intéressant, donc il y a des artistes qui sont sensiblement de la même génération et qui s'autorisent tout, qui vont développer des expérimentations multiples et qui ne sont pas, vous le voyez ici avec De Waré Jikel, qui ne sont pas du tout dans ce qu'on a pu faire pendant très longtemps dans le cadre de la commande publique, de demander à des artistes contemporains de travailler avec des lissiers à Aubusson ou ailleurs, c'est-à-dire en fournissant des cartons, comme on le faisait autrefois, qui étaient ensuite réalisés, reproduits et interprétés par les lissiers. De Waré Jikel sont des artistes qui ont été primés récemment au prix Marcel Duchamp et qui font partie de cette génération d'artistes à vouloir se frotter à la technique. Ce sont des artistes qui se considèrent comme sculpteurs et néanmoins bien, ils mettent la main à la pâte, ils travaillent vraiment comme pourraient le faire des artisans en fait. Ils souhaitent...
Là c'est ce que je mentionnais, le trois niveaux, l'artiste qui se fait artisan.
Tout à fait.
Dans certains cas, c'est l'artisan qui se fait artiste. Donc
là, là, ce sont des artistes qui, finalement, sont un petit peu comme n'importe qui aujourd'hui consulte Internet, regarde des tutoriels et essaye de se faire une tapisserie, par exemple, maison. Donc c'est exactement ça ce qui se passe. Donc c'est des artistes qui n'ont pas forcément le sens de la perfection, qui sont plutôt en train de développer une œuvre qui serait plutôt ouverte aux erreurs, aux tâtonnements. Donc c'est aussi une œuvre qui est plus sensible pour ces raisons-là. Et en même temps, vous voyez, c'est une œuvre assez grossière, on a l'impression de revoir les macramés des années 60, esthétiquement assez pauvre, iconographiquement tout autant, puisque je vous montrerai enfin une tenture qu'ils ont pu faire avec une succession, alors je peut-être je peux vous la montrer maintenant, voilà, avec le teckel, les baskets, le homard, la langouste, pardon. Donc il y a une sorte de, comme une sorte, voilà, le sujet est évacué, il est hasardeux, il est le résultat d'une recherche sur Internet, en fait, où les photos sortent comme ça, et il n'y a pas forcément de recherche, de contrôle par rapport à ça. Et puis cette tenture, alors là vous ne le voyez pas forcément, mais c'est une tenture, enfin celle de droite, est une tenture donc, qui n'est pas apposée au mur. Donc c'est une tenture dont on voit aussi le verso. Donc ça c'est aussi très intéressant parce que c'est aussi une sculpture dans l'espace et c'est aussi un élément qui est gigantesque dans sa taille et qu'il faut contourner. Donc c'est aussi une forme d'entrave, cet objet de décor qui est monstrueux par son motif, par la manière dont il est travaillé. Enfin, tout ça est présent en fait dans leurs interventions. Donc, en tout cas, ce qui est très, très intéressant, selon moi, c'est que peut-être ces 10, 20 dernières années, on a vu énormément d'artistes contemporains qui étaient dans la délégation du savoir-faire avec la réalisation d'un produit fini, d'une grande perfection, et souvent donc que les artistes designaient, mais ne réalisaient pas eux-mêmes. Donc, je pense à des artistes comme Xavier Vélan, qui est bien connu, qui a eu cette exposition à Versailles. Je pense aussi à Delphine Coindé, qui est une artiste qui est actuellement au Crédac à Ivry. Et là, donc, on est dans une réappropriation complète des savoirs, qui est aussi une réponse au fait que nous sommes aujourd'hui dépossédés, désœuvrés en tant qu'êtres humains et plus encore pour les artistes. Je vous présenterai en fin de parcours un tout jeune artiste qui est presque insatisfait de sa formation à l'école. Enfin, il ne le dirait peut-être pas comme ça, mais c'est aussi ça, il répond par au manquement de sa formation à l'école des Beaux-Arts de Bourges, par une formation, un apprentissage qu'il fait de lui-même sur Internet. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une société aujourd'hui dans laquelle nous vivons qui est frappée par la dématérialisation et finalement le recours à des pratiques artisanales permet de réintroduire cette question du faire, F-A-I-R-E, dans la réalisation des œuvres et de retrouver aussi, il y a beaucoup de ça je pense dans ces artistes contemporains, de retrouver aussi une forme de plaisir et de satisfaction personnelle à produire l'œuvre. Donc nos deux amis artistes, Daniel Dewar et Grégory Jiquel, sont des artistes qui se sont rencontrés à l'école des Beaux-Arts de Rennes et qui travaillent, donc ils sont tous les deux nés en 76 et 75, et ils travaillent dans un atelier qui est battu par les vents au Cap Fréhel. Donc ils sont loin de Paris, ils produisent tous les deux et ils sont dans cette espèce de handmade, donc du fait main, qui est donc à l'opposé de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ce sont des artistes qui vont revaloriser des matériaux que la contemporanéité a mis de côté, a déclassé, a délaissé. Il y a plein de termes qu'on pourrait utiliser, comme le bois, la terre. Ils ont essayé également de retrouver des techniques de taille directe. C'est pareil, c'était des choses aussi qu'on voyait peu ou pas. Ils ont retrouvé donc des techniques de tissage, comme je l'ai pu vous le montrer. De la même manière, il y a un autre artiste que je n'ai pas mis en visuel ici, qui est Jean-Marie Apriou, qui a eu une exposition récemment au Palais de Tokyo, et qui, lui, a réalisé des œuvres en fonte. Et donc, il y a vraiment des artistes qui retrouvent des techniques et des manières de faire qui sont anciennes. Alors eux, ils ont un fondement propre à leur pratique, c'est de concevoir, d'être créateur, mais en autodidacte. Effectivement, comme je vous disais, ils se passent de l'étape du lycée lorsqu'ils font du tissage. Ce sont des artistes qui vont faire pendant les récentes expositions, ils ont répliqué certains objets ready-made, c'est-à-dire qu'ils faisaient Ils reproduisaient en bois, par exemple, en taille directe, des chaussures, des bottes. Ils ont fait des truelles aussi. Donc, en fait, c'est là encore, le sujet en soi, il est anodin, il est banal, il n'a pas d'intérêt en soi. Mais c'est comment opposer production industrielle et recours à nouveau à une pratique artisanale comme une manière de se réapproprier des choses qui sont par le mode de fabrication en série, loin de nous finalement. Ce sont des artistes qui vont privilégier aussi les outils de bricolage, la tronçonneuse, la scie, le marteau. Et on sent aussi, voyez là par exemple ce gisant qui est en habit de néoprène, prêt à plonger. Vous voyez que c'est aussi la pierre, en fait, on voit comment elle est entaillée avant qu'elle soit polie, et on a un petit peu toutes les étapes aussi de la réalisation. Alors, ces artistes, au départ, ils ont commencé à travailler... Ils ont commencé à travailler eux-mêmes pour des raisons économiques, dans un premier temps, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer un assistant. Et puis, finalement, ils ont été très heureux d'être seuls, de concevoir aussi leur projet de A à Z, de pouvoir revenir lorsque c'était nécessaire, alors que quand vous sous-traitez votre production, eh bien, vous n'avez pas le moyen au moment, en cours de réalisation, de dire « attendez, on s'est trompé, on veut revenir en arrière, etc. » Donc ça, c'est aussi un élément très important chez eux. Et puis également, ils valorisent le processus créatif, c'est-à-dire qu'ils font aussi beaucoup de films en stop motion pendant la réalisation de l'œuvre. Donc du coup, on a une espèce de restitution aussi de cette étape qui est la réalisation. Et donc là aussi, le stop motion, c'est aussi une manière d'utiliser un médium qui est à la portée de tous, que tout le monde peut utiliser. Donc, ce sont des artistes, ce qui est assez troublant, ces artistes-là, au tout départ, ils faisaient de la copie hyper réaliste, donc ils étaient vraiment dans une production très lissée, et puis voilà, ils se sont laissés aller à produire des choses qui pouvaient être imparfaites. Je suis en train de me dire que... Voilà, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le type d'œuvre qu'ils ont pu faire dans leur four à bois, puisqu'ils ont fait construire un four pour réaliser leurs pièces. Et c'était exposé au Palais de Tokyo, un ensemble de sanitaires. Donc ça crée une espèce de composition hybride de différents matériaux. Donc là encore, ce sont des objets du quotidien, des objets qui sont normalement fabriqués avec des moulages d'argile liquide. Et là, par contre, ils ont répliqué ces objets, mais avec, ils ont modelé les formes du lavabo avec des techniques plus traditionnelles, et ils les ont cuits avec des émaux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange, inclassifiable, hein. Et vous allez voir que tous les artistes, enfin, surtout le dernier, est aussi dans ce registre-là. Et ça participe aussi à ce que disait Nina, de cette volonté aujourd'hui d'explorer ces marges qui finalement font tenir les lignes. Ça, c'est l'exposition qu'ils ont eue donc, au musée Rodin. C'était selon moi une très très belle exposition qui était dans une espèce de presque de en opposition en fait avec Rodin, le mouvement. D'habitude travaillaient en taille directe, là ils se sont intéressés au moulage en béton. Après avoir visité justement ce qu'ils ont appelé la moulothèque dans la maison de Rodin à Meudon. Et c'est tout le contraire, effectivement, parce qu'il y a un côté très archaïque, gigantesque, dans les proportions ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont travaillé le moulage, mais par contre, ils ont détruit tous les moules. Donc, il n'y a plus de reproduction possible de cet ensemble d'architecture, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, ces artistes-là mettent en avant la créativité, comme je le disais, qui serait le produit d'artistes autodidactes, des artistes qui n'hésitent pas à être dans une forme de régression par rapport à la méthode de production, des artistes qui vont s'approprier des techniques artisanales pour reproduire des objets industriels déjà existants, et qui vont chercher du coup à transformer le commun en unique. Je voulais maintenant vous parler de Morgan Chimber, qui est une artiste qui est née en 1976 et qui a fait l'École des Beaux-Arts de Quimper en 1999 et puis l'École des Beaux-Arts de Paris en 2002. C'est une artiste qui a été récompensée par le prix Ricard en 2011. Et donc là, vous la voyez mettre les mains à la pâte, puisque c'est comme ça qu'elle fonctionne dans son atelier de la Courneuve. C'est une artiste qui est proche d'artistes comme Olivier Mossé, qui est une femme qui va explorer la matière, explorer la sculpture, mais dans une vision très très élargie, vous allez voir. Elle aussi associe aussi la sculpture à quelque chose d'assez performatif, vous allez voir dans les gestes qu'elle met en œuvre. Donc ce sont beaucoup d'œuvres qui sont nées de découvertes fortuites. La dernière fois, quand je suis allée dans son atelier, elle me disait avoir découvert qu'il y avait différents types de matériaux assez inattendus, qui devaient être cuits à une même température et qu'elle allait s'amuser à les faire se rencontrer dans son four. Parfois, elle fait des mariages contre nature, donc vous allez voir avec une des œuvres plus loin. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de casses, parce qu'elle fait beaucoup d'essais, et donc tout ne fonctionne pas toujours très bien. Donc c'est quelqu'un qui va être qui a un goût particulier pour l'expérimentation, la manipulation des formes, et aussi le désapprentissage. Là encore, ça fait partie de ces artistes qui s'autorisent tout, qui va chercher à dépasser des techniques connues, et puis elle-même, elle est dans une forme de dépassement de soi. Elle fait encore partie de ces gens qui sont dans une espèce de rêve de modernité aussi, portée par cet élan. Là, ce qu'elle nous présente, c'est finalement des peaux comme des ruines. Et donc, c'est un travail qui est fait skin sur textile, sur lequel elle pose de la céramique. Sous l'effet de la cuisson, donc tout cuit, hein, le textile et la céramique, et donc ça donne une sorte de peau écaillée, en fait, assez belle et lépreuse à la fois, qui n'est pas tant une peinture qu'une installation, et ça peut faire penser aussi à des œuvres de support surface de l'échelle de Deuseuse, par exemple, qui est quelque chose qui ploie aussi au sol et qui vient mourir au sol. C'est une artiste, vous voyez, qui est aussi une artiste en force, hein, elle a un côté punk aussi dans sa manière de travailler. Et c'est une artiste qui mêle aussi des expériences qui sont des expériences professionnelles, personnelles et intimes. En l'occurrence, cette série des Bubbles que vous voyez ici, elle les a soufflées alors qu'elle était enceinte. Et pour elle, c'est très important aussi ce rapport à cette extériorisation de soi qui va s'exprimer à travers ce matériau vert. C'est quelque chose, là aussi, je crois qu'elle avait fait ça à Mezenthal, qui est un centre verrier de l'Est, qui accueille beaucoup d'artistes contemporains. Et en fait, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la structure, donc elle le fait aussi sur des structures en acier. Bon, en l'occurrence, les structures en bois brûlent au contact du verre, donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc, il y a cette idée d'une forme à la fois libre et en prise par cette structure. Donc c'est toujours un état qui est proche de l'informe, comme si elle voulait fixer une sorte de matière instable aussi, et le verre lui-même est instable parce qu'il n'est pas totalement transparent, il n'est pas totalement opaque. Jusque ce que vous avez au-dessus, c'est une œuvre qu'elle a réalisée avec deux rouleaux métalliques, donc peut-être ici vous voyez mieux. Et donc c'est encore une fois ces rencontres impossibles comme une sorte de combat tel qu'elle les voit elle. Donc un mélange impossible entre peinture à l'eau, peinture à l'huile. Et donc elle crée cette espèce de combat avec ses Rolls. Et l'un est plus petit hein, que l'autre au niveau des rouleaux. Et voilà. Et donc elle voit un petit peu ce qui se produit. Pour elle, c'est une sorte de rapport maître-esclave entre les deux. Oui. Et donc on a bah forcément, ça faisait penser à la broyeuse de Marcel Duchamp. Ça, c'est le travail de Shibari. Donc c'est un travail en fait de sculpture qui a été réalisé en terre et qui est noué durant le processus et ensuite présenté tel quel, pendu. Donc ça fait aussi penser aux photos d'Araki également. Donc ça ouvre sur d'autres projets. Ça, c'est sa dernière série, qui est une série de moulage de béton dans du carton. Donc, c'est une esthétique relativement pauvre et en même temps très belle, parce que du coup, on a l'empreinte du carton qui vient se poser. Et puis, il y a cet avachissement de la forme qui est dû à la pesanteur du béton. Ça, c'était toute sa série de projections de peinture sur des éléments de feuilles qui étaient soulevés. Donc, c'est des feuilles métalliques et il y a une composition multiple et renouvelable à l'infini. Voilà. Alors, puisqu'il faut que j'aille un petit peu plus vite, voilà, juste pour dernière artiste que je voulais vous présenter et qui est là encore peut-être à l'opposé de la belle manière, si ce n'est que on peut aussi voir dans des formes et dans des matériaux inappropriés quelque chose qui peut être extrêmement séduisant. C'est le cas, en fait, pour ma part, de Peter Buganot, donc avec ses présentations d'œuvres du Mont Ventoux qui sont réalisées à partir de peaux d'intestin. Et les viscères de la peau créent des aspérités qui peuvent être extrêmement belles par endroits et donc créer quelque chose d'assez étonnant. Et lui travaille avec des tanneurs pour la réalisation de ses pièces. Donc ça donne des espèces de poches, comme des poches prêtes à accoucher. En fait, c'est assez troublant en fait, de voir, et c'est tout un ensemble d'accumulation et d'étirements qui peuvent être faits par des éléments, des structures en bois, toujours dans cette esthétique un peu symptomatique de l'époque. C'est aussi donc en référence à Bruegel l'Ancien, hein, les aveugles guidant les aveugles. C'est aussi une espèce de structure comme ça, très complexe, hétéroclite, formée de matériaux épars sur lequel il vient projeter de la poussière, mais qui est une poussière donc qui collecte et qui va donner une espèce de patine, mais qui pour lui fait penser à cette poussière un peu sacrée qu'on peut avoir dans la sculpture africaine, comme vous voyez ici. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est des formes qui sont considérées comme... le disait Georges Bataille, comme des formes méprisables hein, et des formes abjectes. Et c'est comment, justement, lui va intégrer tout ce sang de porc, de crin de cheval, d'éléments comme ça, de peau assez rebutante. Quel regard on va pouvoir porter à ces peaux, quelle distance aussi il va nous proposer, puisque la plupart sont placés sous vitrine et d'autres en contact direct. Donc, en tout cas, c'est aussi une œuvre qui nous parle beaucoup de notre rapport, comme une sorte de revanche par rapport à la société industrielle, encore, qui apporte une forme de désœuvrement à l'être humain. Et créer une œuvre qui soit dans une forme d'affranchissement par rapport à une esthétique prônée aujourd'hui. Ça, c'est aussi un des aspects relativement importants. Et puis, je vous disais que j'allais vous montrer ce jeune artiste qui est encore étudiant et qui a fait des pièces, lui, il fait des pièces invisibles qui sont des pièces de moteur, d'engrenage, etc. Et qu'il reproduit, donc, à grande échelle et qui reproduit vraiment à la main, mais à partir de tout ce qu'il récupère sur Internet. Donc c'est vraiment, là encore, un artiste qui se forme lui-même, qui cherche à se réconcilier avec son environnement et à retrouver une certaine mainmise sur les choses. Voilà, donc on pourrait peut-être conclure en disant que peut-être que la réponse vis-à-vis de la prolifération des biens serait celle des gestes aujourd'hui.
Merci. Merci Alexandra. Je retiendrai la beauté des viscères qui nous étaient proposés tout à l'heure. Et ce qui, si c'était approuvé, pose la question de la beauté éminemment relative. Alain Mangot, maintenant, je vais vous céder la place parce que ça sera plus facile pour vous. Donc Alain Mangot, maintenant, va nous introduire encore plus profondément dans cette relation entre artisanat et création contemporaine. En évoquant donc très profondément et très précisément le processus de production, la valeur travail, oserais-je dire, dans le processus de création artisanale appliqué à ce que j'oserais appeler le design, mais sous votre autorité.
Alors, allô. Oui. Alors là, on va passer dans un autre registre. Là, on n'est pas dans l'artiste, on va plutôt être dans le créateur qui va en même temps être artisan. Et donc là un exemple d'une console qui est quand même assez complexe dans le sens où vous avez un anneau de Möbius et cet anneau de Möbius va être plaqué et là c'est beaucoup d'expérimentations qui ont amené les élèves de l'atelier à mettre au point ce type de transformation. Alors là c'est une infusion, c'est-à-dire qu'on projette de la résine et on aspire de l'autre côté et la résine va se transférer entre les deux éléments. Et ici, on voit un détail avec le carbone à l'intérieur et le plaquage à l'extérieur. Et là, vous voyez les deux bandes de bois de plaquage qui vont être en fait remis en forme sur l'ensemble de la structure. Et voilà la structure une fois terminée. Alors là, vous l'avez dans sa version brute et vous l'avez ici dans la version vernie. Donc là, il y a une démarche créative et en même temps fonctionnelle, parce que là, on est sur une console, donc vous avez une partie plane qui est sur le haut de la pièce, et un choix aussi de matériaux bois pour justement mettre en valeur, par le veinage aussi, la structure. Un détail. Un autre élément qui nous a amené à la première expérimentation de moulage sous vide. Et vous voyez que les éléments qui constituent en fait le piétement de ce siège-là, ça nous a permis en fait de mettre en œuvre des formes très complexes à l'aide de moules relativement rudimentaires, mais grâce à la mise sous vide, on a pu obtenir des plans très compliqués. Là, c'est une réalisation contemporaine aussi, mais là dans laquelle on a cherché une ergonomie importante au niveau des deux éléments assis et dossiers en constituant un caillebotis tout en bois massif. Là, celui-là, on marie plusieurs techniques, des techniques traditionnelles pour magnifier aussi le matériau. Vous avez une rampe entièrement débiardée qui est en noyer avec un effet décoratif en haut de crosse. Et puis l'utilisation de plaquage pour constituer l'ensemble du voile et un moulage aussi sous pression dans une presse qui nous permettait d'obtenir la partie courbe à gauche.
Alain, pourriez-vous préciser si vos élèves, là encore une fois, maîtrisent entièrement le processus de production? Ils sont en même temps concepteurs, exécutants? Alors, c'est un aspect important.
Dans le cadre des études, l'année de Bac plus 2, qui s'appelle une année de DMA, diplôme de métier d'art, les élèves conçoivent et réalisent dans l'année leur objet. Donc chaque élève, chaque étudiant, en accompagnement avec des profs d'art appliqué et les profs d'atelier, mettent au point donc un projet qu'ils défendent en fin d'année face à un jury. Alors, certaines images que vous avez vues sont des images d'un ancien élève qui a commencé à faire une pièce de diplôme en carbone et qui a continué d'exploiter. Là, c'est des pièces uniques. Là, ce que vous voyez ici, c'est une chaise. Là, vous avez la face avant. Alors, la face avant, en fait, elle est entièrement garnie de cuir. Et là, vous avez, dans le même esprit, un fauteuil sans accotoir, pareil. Mais par contre, lui, il a une garniture dans l'assise. Et là, on a utilisé, étant donné qu'on est sur des formes très courbes, le matériau bois plaquage ne peut pas supporter des torsions et des flexions comme celle-là. Alors maintenant, il existe un système allemand qui s'appelle un bois qui est en fait refractionné par lame de 1 mm et qui est collé sur des fils par derrière et qui peut encaisser des cintrages dans tous les sens. Alors là, on voit un exemple de moule qui a servi. Je vais passer assez vite. Voilà, vous voyez la forme des différentes couches qui sont faites en polystyrène. Et ces polystyrènes vont être en fait tous rafleurés. Et ça va constituer en fait l'espace de moulage général de la pièce. Là, on voit le tissu de carbone qui est apposé à l'intérieur de la structure. Là, on voit aussi l'autre partie avant que le moule soit mis sous vide. Une autre expérimentation qui nous a permis aussi de passer outre les caractéristiques techniques du bois massif, c'est l'utilisation de pièces de bois sous forme de briquettes. Alors, dans l'expérimentation que vous avez sous vos yeux, là, vous voyez en fait une assise complètement ergonomique qui va être montée sous forme de voile de bois en noyer. Et on voit en fait la structure brute une fois collage réalisé. Et là, ici, on est en train, après rafleurement, de générer la forme définitive. Là, vous voyez, c'est un siège un peu particulier vu qu'il est fait pour être utilisé avec une tablette ou un ordinateur. Quand l'opérateur, c'est donc un siège à deux positions, l'opérateur s'assied et il se bascule en arrière et donc il est déconnecté du sol mais connecté de manière informatique. C'est assez original. Et on voit donc l'objet qui était conçu justement pour être un objet nomade. Parce qu'il fallait qu'il soit relativement léger, donc il peut se déplacer aussi bien d'un salon, dans une chambre. Et pour compléter ce siège-là, il y avait une petite table qui a été créée pour justement servir pour poser les accessoires. Un exemple de collage aussi par moule et contre-moule. Là, ça permet de contraindre aussi des plaquages avec des formes diverses. Une pièce intéressante, parce qu'on rejoint un petit peu ce qu'on dit, mais les précédents intervenants, c'est-à-dire que là, on est sur une création d'un siège qui était fait pour une galerie d'art, et on était à mi-chemin entre un siège fonctionnel et un siège de sculpture. Et là, vous voyez l'étape première qui est sortie de l'atelier, c'est-à-dire tout le bois est apparent, et le clin d'œil a été, en fait, de laquer cette structure et de garder qu'un seul petit morceau de bois apparent. Alors là, déjà, quand on voit cet élément-là, on ne sait plus si c'est du bois, du polystyrène, du... Et là, vous voyez l'élément fini. Donc, c'est un élément composé uniquement de courbes. Et l'intérêt aussi, c'était justement qu'on se rapproche vraiment d'une sculpture et on est à mi-chemin. Même la couleur a été choisie entre un jaune et un vert pour compléter l'interrogation. Un autre élément qui nous a permis aussi de tirer parti des techniques qui sont déjà existantes, mais qui sont les bois cintrés à chaud. On a les deux éléments du dossier qui sont constitués en fait d'éléments cintrés et puis un système aussi de briquettes qui permettait de construire l'ensemble de la structure. Là, cet élément-là, ah zut, il n'a pas été retourné. Alors là, cet élément-là, c'est un rocking chair qui est constitué uniquement de massif. Il y a à peu près 600 morceaux de bois qui constituent cet élément, qui sont collés à plat joint et qui sont refaçonnés. Et là aussi, vous n'avez pas une seule partie droite. Et l'esthétique a été assez poussée pour essayer justement d'avoir des pleins, des creux et quelque chose de très tendu. C'est un petit peu le maître mot un peu de notre métier, par contre, c'est... Alors, je suis désolé, ils ne sont pas à l'endroit. Là, vous êtes sur un siège de massage qui est un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'on vient s'asseoir à califourchon et on pose sur les genoux comme pour les sièges suédois. Et là, cet élément-là donc, permettait en fait un massage habillé. Ce n'était pas du tout le concept. Alors, vous voyez là l'étudiante qui réalise une démonstration. Alors, vous voyez l'élément là qui est complètement asymétrique aussi, avec une très belle structure qui permet en fait l'accrochage de l'ensemble des coques qui constituent les parties d'appui. Un autre élément assez intéressant, c'est qu'on a utilisé aussi des bois qui sont dits non nobles, alors du peuplier. Le peuplier, c'est ce que vous voyez dans le long des rivières, qui sont des bois plutôt pour faire des boîtes à camembert qu'autre chose. Et maintenant, ils ont utilisé ce peuplier en l'utilisant en bois rétifié. Alors le bois rétifié, c'est un bois qui est cuit à haute température et qui permet de lui donner un caractère imputrescible. Et là, ce peuplier-là, il a été formé sous forme de contreplaqué, donc on fait varier le sens du fil à chaque fois. Et l'ossature de tout ce siège-là, qui est en fait un siège qui est conçu pour être un siège haut qui vient dans un parc et jardin, c'est en fait l'antithèse du banc public. La personne va monter sur ces marches-là et venir se mettre dans ce cocon aérien qui permet d'asseoir la personne à 1,50 m du sol. Et vous voyez, là, des positions qui permettent aussi de... Et là, pour finir, un exemple aussi de Pierre Renard, celui qui a fait les sièges que vous avez vus précédemment avec le carbone et le cuir. Il a aussi exploité pas mal le matériau corian, qui est une résine de synthèse qui permet de faire des dessus de plans de travail, mais aussi de pouvoir être utilisé aussi dans le mobilier. Donc c'est l'exploration aussi de ces nouveaux matériaux dont on est habitué à avoir une utilisation assez précise, qui est détournée aussi par les élèves, enfin les étudiants et les réalisateurs maintenant, qui permettent de leur trouver aussi une autre fonction et d'accorder aussi une esthétique assez intéressante par la matière du corian, justement. Je vous remercie.
Merci Alain. Bien. Nous en avons terminé avec ce panorama assez large en une heure et quart de temps. Il était complexe de traiter cette question du rapport entre l'artisanat et la création de composants de manière exhaustive.